France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Jean-Michel Beignet, François Doss, bonjour.
Bonjour et bon dimanche.
Bonjour.
Vous êtes respectivement Jean-Michel Beignet, philosophe, et vous, François Doss, historien, et vous êtes tous deux membres du comité de rédaction de Raison Présente. Je vous ai réunis en ce dimanche matin autour du dernier numéro de Raison Présente, intitulé « Faiblesse et résistance de l'état de droit », dont nous avons éprouvé l'absolue nécessité au comité de rédaction au lendemain des élections législatives de 2024, qui faisait suite à la dissolution décrétée par Emmanuel Macron à la suite des élections européennes du 6 et 9 juin 2024. Et comme une demande du RN, à laquelle le président de la République a accédé, à la surprise générale et en tout premier lieu à la surprise du Premier ministre, Gabriel Attal, de la présidente de l'Assemblée nationale, de celui du Sénat, qui avait été non pas consulté, mais seulement averti. Il nous a semblé qu'avec la montée en puissance du Rassemblement national et de l'autoritarisme de plus en plus affirmé du chef de l'État, l'État de droit semblait de plus en plus menacé, en France bien sûr, mais dans le monde également, et l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis l'atteste. Alors, ma première question s'adresse à vous, Jean-Michel Beignet. Pouvez-vous présenter ce numéro de Raison Présente et nous dire en quoi vous le trouvez important ?
Mais écoutez, ce numéro, il est sous-tendu par les inquiétudes que vous venez de rappeler, liées à la conjoncture, donc la dissolution de l'Assemblée nationale, l'élection de Trump. Mais plus généralement, cette inquiétude, elle concerne la déqualification du politique dans notre pays et dans le monde. La montée en puissance d'un anti-élitisme, voire d'un anti-intellectualisme qui se traduit parfois en populisme, est objet d'inquiétude. La tentation de replacer le peuple souverain au-dessus de l'état de droit menace la démocratie de délitement. Cette tentation, elle est rappelée dans le numéro à travers la tirade de Bruno Retailleau. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. De sorte que ce numéro, il trouve son homogénéité dans cette inquiétude, dans ces inquiétudes. Le projecteur est naturellement braqué sur le Rassemblement national qui revendique ces signes d'inquiétude pour en faire des arguments électoraux. Mais pas seulement. Le projecteur va plus loin et les auteurs se sont également efforcés d'identifier les questions névralgiques qui se traduisent par la montée justement de l'extrême droite. Alors, je passe en revue rapidement les articles qui ont pris à cœur ces questions névralgiques. Il y a d'abord un article de François Doss qui met en évidence l'apparition d'une société de contrôle attentatoire aux libertés, mais François est là et il en dira peut-être un mot. Une contribution importante de Laurence Burgorg-Larsen qui décrit la multiplication des attaques contre l'état de droit et contre le pouvoir des juges. Un entretien avec Fabien Jobard a permis d'interroger les relations de la police. Il a mis en œuvre, au fond, mis en évidence des moyens que la police utilise au sein de la société civile. On a évidemment, dans cet entretien, évoqué le délit de faciès, les contrôles d'identité, les LBD, c'est-à-dire les lanceurs de balles de défense. Mmh. Bon, là, cet entretien, la description de manière extrêmement tangible de ses relations avec la police. Nona Mayer et Félicien Faury ont abordé la banalisation des thèses xénophobes et racistes dans nos sociétés. Vous-même, Emmanuel Huysmans, vous avez abordé la pénétration des thèmes fascistes dans l'espace public aujourd'hui. Christian Ruby a abordé, lui, un aspect tout à fait important du paysage général de cette montée de l'extrême droite, à savoir les perversions de langage qui brouillent les idées et les valeurs. Lui a focalisé sur le mot transmission, mais son analyse porterait sur d'autres termes tout à fait autant sulfureux, si je puis dire. Et enfin, Alain Policard a lui aussi abordé l'idéal universaliste, ou en tout cas les nouvelles exigences de l'universalisme aujourd'hui, dans le contexte notamment de la décolonisation, bien sûr. Donc c'est un numéro qui passe en revue toutes ces questions que j'ai qualifiées de névralgiques, mais je devrais dire que émergent néanmoins des lueurs d'espoir et de promesses chez certains auteurs. La mobilisation des juristes en faveur de l'état de droit est assurée. Les perspectives d'une démocratie d'inclusion sont évoquées par Nona Mayer, notamment. Et puis, au fond, dans l'entretien avec Fabien Jobard, il apparaît qu'une évolution positive des pratiques policières s'est révélée et un certain nombre de faits ne sont plus guère possibles aujourd'hui, ou en tout cas le sont de manière moins aisée. Et puis je dirais que d'une certaine façon, au registre de ces lueurs d'espoir, on pourrait dire que renaît aujourd'hui un esprit critique étayé sur des analyses de la situation, et ces analyses sont de plus en plus affûtées. Voilà, j'ai fait le tour aussi clairement que possible. Voilà.
François Doss, je me tourne vers vous car votre présence dans ce numéro de Raison Présente est massive, non seulement par votre double contribution à ce numéro, mais aussi par l'importante note de lecture que Guy Bruit consacre à votre ouvrage « Les vérités du roman, une histoire du temps présent ». Alors, je voudrais d'abord vous interroger sur votre article liminaire dans la revue et important dans votre itinéraire intellectuel et politique, intitulé « Macron ou la déréliction du politique ». Vous avez en effet d'abord cru en Emmanuel Macron et vous avez vite déchanté ou perdu vos illusions. Pourquoi ?
Oui, tout à fait, vous avez raison, et Jean-Michel félicite aujourd'hui le retour de l'esprit critique à juste titre, ça vaut aussi pour moi, parce qu'effectivement j'ai eu, comme je l'ai dit, les yeux de chimène par rapport à notre président de la République, Emmanuel Macron, que j'ai eu comme étudiant à Sciences Po, que j'ai mis en relation avec Paul Ricoeur, et où j'ai noué pendant une courte période une relation qu'on peut dire d'amitié, que je croyais être de l'amitié, parce que je pensais qu'il avait ce sentiment-là. Or, c'est quelqu'un qui est sans affect. Et j'avais écrit, justement, un livre au début de son premier quinquennat qui s'appelait « Le philosophe et le président », non pas pour dire que le président est philosophe, mais pour témoigner d'un véritable dialogue qui a eu lieu entre Paul Ricoeur et Emmanuel Macron dans le cadre de la réalisation d'un de ses grands livres, Paul Ricoeur, qui est « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Or, je voyais dans le programme de son livre « La Révolution », livre de Macron, 2016, quelque chose qui était dans la perspective de la philosophie ricœurienne, c'est-à-dire une politique de justice sociale, une politique d'ouverture, une politique laïque ouverte, et une politique d'égalisation des chances. Bon, et je voyais une continuité dans ses valeurs et je félicitais donc son élection et ce programme. J'ai dû, on est en 2025, vous imaginez bien déchanté sur tous les plans économiques, sociaux, culturels, etc. Et j'ai viré ma cutie. On peut dire que mes yeux ont commencé à recouvrer un minimum de lucidité en 2019, au moment où, après avoir carchérisé la gauche, puisqu'il a été élu grâce à l'électorat de gauche, dont j'étais, il s'est adonné à carchériser la droite, jeu très dangereux sur le plan politique, parce qu'il se trouvait en tête à tête avec quelle force ? Le Rassemblement National. Et comme le dit d'ailleurs l'historien Patrick Boucheron, à choisir ce partenaire, le Rassemblement National, il désignait son successeur en la personne de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, on peut dire entre parenthèses que la dissolution dont vous parliez à juste titre et qui a surpris tout le monde, y compris le Premier ministre, n'a pas surpris Marine Le Pen, c'était sa demande. Elle disait « je suis d'accord pour parler avec Macron » qui lui proposait à propos de l'élection européenne, à une condition, qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Bon, eh bien, effectivement, il a été jusqu'à dissoudre, mais surtout en 2019, j'avais écrit une lettre ouverte au Monde sur la question de l'immigration. C'est un moment où Macron rompt avec l'idée de l'accueil, justement, et dit voilà, on n'est pas un parti bourgeois, c'est un gros problème, et il prend une série de mesures qui transforment la France en forteresse et ses frontières par rapport à la question de l'accueil des immigrants. Eh bien, ça, je pouvais évidemment pas l'accepter. Et ensuite, en analysant le sens de sa politique, j'y voyais le contraire de ce qu'il promettait, puisque je vous rappelle un magnifique article qu'il avait écrit dans Esprit en 2011, qui lui a valu d'être conseiller de Hollande. Eh bien, il prêchait l'horizontalité en politique.
Bien sûr.
Or, ce qu'il a pratiqué, c'est la verticalité totale, au point d'ailleurs qu'il l'assumait, qu'il a mis en place un pouvoir jupitérien, qu'il a absolument mis sous le boisseau l'article 20 de la Constitution qui dit que c'est le gouvernement et donc l'Assemblée qui dirige. Non, tout venait de l'Élysée. Et ma naïveté, était totale, parce que quand il y regarde de près, quel parti a-t-il créé pour gagner l'élection présidentielle ? EM, En Marche. Ce qui donne Emmanuel Macron. C'est ce qui est, par les politistes, théorisé comme des partis personnels, qui augmentent aujourd'hui, on voit ça en Italie, des partis personnels qui répondent aux intérêts personnels de son chef. Et pratique du 49-3, enfin, tout le monde connaît ça. Et puis, petit à petit, il s'est installé sur le terrain du RN. C'est-à-dire que, si vous prenez ses discours, on est passé d'un discours très accueillant, très social, à tout autre mode de langage. Si vous prenez à partir des 2019-2020, il va parler de compatriotes.
Il va reprendre
à Marine Le Pen, compatriote. Mmh. Il va parler d'une gauche immigrationniste. Il va parler, là, il reprend à Zemmour, La France doit rester la France. Bon. Donc, voilà, il a été, finalement, là, il offre un pont d'or à ce qui est en train d'arriver, à ce qui est arrivé, qui est le fait que le RN est en bonne position pour, malheureusement, diriger ce pays.
François Dos, merci. Jean-Michel Beignet, comment expliquez-vous les discours anti-droit, anti-juge, en Europe et dans le monde? Et pensez-vous que la démocratie et l'état de droit soient aujourd'hui en péril?
Je crois que ces discours anti-droite, anti-juge, anti-Europe répondent à des critères assez clairs. D'abord, ils révèlent que nous avons formé des sociétés aujourd'hui qui sont hyper individualistes. Le refus de la commune mesure devient presque commun. J'en prendrai simplement comme preuve le soupçon que la régulation aujourd'hui engendre la restriction de la liberté de s'exprimer. C'est toutes les critiques qui sont adressées au niveau mondial, là, contre l'IA Act européen. Enfin, Les Américains ont mené cette critique, mais sont repris par la Chine aujourd'hui. Nous développons une société dans laquelle l'atomisation des individus est une réalité, et il ne faut pas se leurrer. Les réseaux sociaux ne font qu'agréger des individus qui sont fluctuants. Nous sommes dans une société liquide, comme disait Bauman. Le deuxième trait peut-être qui caractérise ces discours anti-droite, c'est la perte de confiance dans un État dont on dit qu'il n'assure plus la sécurité. L'idée que nous connaissons un désordre croissant est une idée là aussi très forte. C'est la sécurité des frontières, c'est la sécurité de l'épargne, c'est la sécurité des personnes physiques. Tout se passe comme si on ne croyait plus dans le contrat social aujourd'hui, dans ce contrat qui devait instaurer le droit pour encadrer justement les libertés naturelles. Le soupçon d'une imposture des institutions est un soupçon aussi qui s'accroît. Ces institutions, elles sont soupçonnées de servir la cause des forts et de contraindre les faibles à se soumettre. C'est la mise en évidence des inégalités de traitement fiscal. Le taux d'imposition des riches est jugé trop faible. La TVA qui frappe la consommation des familles est aussi largement dénoncée. Les atteintes contre le droit du travail et la dénonciation de l'ubérisation, tout ça forme également un bloc qui alimente ces discours anti-droit. Aujourd'hui, on assiste aussi aujourd'hui à la mise en cause du droit international, et en particulier de la Cour pénale internationale que refusent les USA, la Chine, l'Inde, la Russie et Israël. Et là, cette remise en cause du droit international se traduit par l'idée que, décidément, le droit est en train de céder à la force. Alors oui, la démocratie est sans doute en péril. On entend dire qu'elle est un frein. Aujourd'hui, opposée à l'activité économique, opposée au productivisme dont la France n'est plus un fleuron, la fragilité de la démocratie, elle aurait révélé son incapacité à assurer des politiques de redistribution. Le lieu commun le plus grand aujourd'hui, c'est que nous connaissons la fin de l'État-providence. J'ai entendu récemment Nicolas Bavrez parler des 30 piteuses, et son discours consistait grosso modo à dire que la démocratie est un luxe qu'on ne peut plus s'offrir aujourd'hui. Alors la médiatisation des oligarchies est sûrement le plus mauvais signe qu'on puisse imaginer. On est en train d'héroïser des figures comme Musk, Zuckerberg, Thiel, etc., qui ont tous en commun de mépriser les valeurs démocratiques, notamment ces valeurs qui sont associées aux idéaux de justice climatique, de sobriété technologique, etc. Donc je pense que effectivement on est maintenant en position pour identifier réellement les tressaillants de ces discours anti-droit, anti-juge, anti-Europe, et la mobilisation de la démocratie se déduit assez facilement de ces éléments de science.
Merci Jean-Michel Beignet et François Doss pour cette défense de l'état de droit. Remercie à la technique Alex Dang, à la réalisation Jean-Christophe Francis et à la préparation Claire Poinsignan. Je renvoie au numéro de Raison Présente dont nous avons parlé, le numéro 232, Faiblesse et Résistance de l'État de droit. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent lutter contre l'anti-intellectualisme, contre le populisme et contre la montée du fascisme, à nous rejoindre à l'Union rationaliste, créée en 1933 dans un moment de lutte contre le fascisme. Nous n'en avons jamais eu autant besoin. Je vous invite donc à nous rejoindre et je vous dis au mois prochain.